Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Le plan Vigipirate a donc été rehaussé à son niveau maximal après la tuerie perpétrée à Moscou, une tuerie qui a fait plus de 130 morts. La menace terroriste dans l'Hexagone est réelle, a affirmé le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur est lui aussi revenu sur cette menace qui, a-t-il dit, est aujourd'hui très élevée. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Hugo Micheron. Bonjour.
Bonjour.
Hugo Micheron, vous êtes professeur en sciences politiques, spécialiste du djihadisme, maître de conférences à Sciences Po. On vous doit notamment La colère et l'oubli aux éditions Gallimard, qui a obtenu le prix Femina de l'essai. Votre point de vue sur cette manière dont le plan Vigipirate a été rehaussé, dont la menace paraît aujourd'hui élevée en France?
Il y a deux éléments de contexte qui permettent de comprendre cette décision. Le premier élément, c'est évidemment l'arrivée des Jeux Olympiques et d'une menace djihadiste qui est quand même importante. On l'a vu aussi avec des menaces formulées contre des établissements scolaires de façon répétée depuis une semaine. L'autre élément de contexte, c'est évidemment l'attentat de Moscou et plus largement un regain d'activité des mouvements donc qu'on appelle de Daesh au Khorasan, qu'on pourrait qualifier de Daesh en Afghanistan pour faire simple. Et c'est très important de voir qu'il y a des liens potentiels entre l'activisme en Afghanistan, les frappes en Russie et une éventuelle menace sur l'Europe. Et ça, on a un petit peu du mal à le voir, parce qu'elle est moins évidente peut-être que ce qui était le cas de la Syrie ou l'Irak sur la dernière décennie, où on avait des Européens qui avaient rejoint relativement en masse. Enfin, on avait à un moment donné plusieurs milliers d'Européens sur zone, et donc la menace pouvait se comprendre de façon évidente. Là, c'est beaucoup moins le cas. Il y a beaucoup moins d'Européens en Afghanistan. Il y en a quelques-uns, mais assez peu. En revanche, on a des groupes djihadistes qui se sont recomposés sur place, certains d'ailleurs liés à l'Irak et à la Syrie, mais qui, sous cette couverture de Daesh en Afghanistan, en fait, regroupent plusieurs tendances djihadistes qui, historiquement, sont très intéressées à déstabiliser, bien sûr, l'Asie centrale, mais aussi l'Europe. Et parmi eux, on a ces groupes tadjiks qui ont frappé, donc encore une fois, sous la couverture de Daesh au Khorasan, qui ont tapé Moscou. Ce sont des groupes qui ont été très actifs sur les dernières années, les deux dernières années notamment, pour essayer de projeter des attentats vers l'Europe, vers l'Allemagne, vers la France, en mobilisant des réseaux proches, des réseaux tchétchènes, des réseaux ingouches et tadjiks. Et on se souvient des derniers attentats en France, par exemple celui de Samuel Paty. L'auteur de Samuel Paty, qui était lui-même d'origine tchétchène, avait été en lien avec un tadjik en Syrie qui était probablement dans cette mouvance-là. L'autre élément, c'est évidemment l'attentat d'Arras du 13 octobre dernier, où l'auteur était lui-même d'origine ingouche et aussi en lien avec des individus de cette mouvance-là. Donc la filiale, pour parler ainsi, de Daesh, qui a en ce moment le vent en poupe, c'est quand même beaucoup Daesh au Khorasan, et ça depuis en fait l'arrivée des talibans au pouvoir en 2021.
Ça signifie que les choses n'ont pas changé depuis quelques années, depuis une décennie, Hugo Micheron? Ou alors est-ce que la France, de par son agissement, a réactivé donc cette menace? Parce qu'il y a toujours les deux thèses. Est-ce que nous sommes visés parce que nous faisons quelque chose ou parce que nous sommes quelque chose?
Mais il y aurait probablement les deux. Les acteurs djihadistes sont très opportunistes. Donc, en fonction de leur agenda politique, ils vont mettre en avant un certain nombre de justifications et d'autres. Enfin, l'erreur, ça serait de les prendre au pied de la lettre. On voit bien qu'en frappant la Russie, là, vendredi dernier, ils montrent qu'ils sont capables d'utiliser un éventail d'actions assez large et de frapper un nombre de pays considérable. Il faut mettre ça aussi en perspective avec l'attaque contre l'Iran du 3 janvier dernier.
Qu'est-ce qui s'est passé en Iran le 3 janvier? janvier.
Eh bien, il y avait un hommage à Qassem Soleimani, qui était, si vous voulez, une icône du régime iranien, notamment connu pour sa lutte contre les réseaux djihadistes en Irak, qui avait été tué par une frappe américaine en 2019-2020. Et donc, cet hommage qui a eu lieu a été la cible d'un attentat terroriste de Daesh au Khorasan, qui était l'un des plus meurtriers, si ce n'est le plus meurtrier dans l'histoire iranienne, avec près de 100 morts quand même. Donc un coup très très dur pour le régime, qui était en fait déjà une révélation des capacités d'action de Daesh au Khorasan, bien au-delà simplement de l'Asie centrale, puisqu'en Iran, désormais... En Russie, je vous l'ai dit, il y a un certain nombre d'attentats de ce même groupe qui a été déjoué en Europe, et donc on voit bien là qu'il y a un réveil. Je ne crois pas que la France soit, encore une fois, à retirer de ce panorama général. En fait, ce que je montre, c'est qu'évidemment, le djihadisme évolue, a des fluctuations. On a été, depuis la destruction de Daesh en Syrie et en Irak, 2019-2020, dans ce que j'appelle une période de marée basse, et en même temps, dès 2021, on a eu le rebond du djihadisme international, notamment avec l'arrivée des talibans en Afghanistan. Et c'est une des conséquences de ça qu'on paye aujourd'hui.
Et puis, il y a aussi le fait, c'est hélas particulièrement frappant, le fait que le mode opératoire à Moscou rappelle bien sûr le Bataclan.
Oui, absolument, à tout point de vue, avec un élément supplémentaire qui est que les secours ont mis quand même un certain temps à arriver, et ce qui a laissé une latitude encore plus forte chez ces acteurs. C'est très très dur. Évidemment, la Russie n'est pas les autorités russes ne sont pas les championnes de la transparence, donc c'est évidemment très dur d'avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir objectiver ce qui s'est passé, mais ce qui est certain, c'est que les assaillants semblent avoir bénéficié d'un peu plus de marge de manœuvre que ce à quoi ils s'attendaient. Et à tel point, c'est qu'ils sont repartis avec le véhicule avec lequel ils sont venus, ce qui est déjà arrivé. On a vu déjà des groupes djihadistes qui, commettant leur attentat, s'attendant à trouver une réponse, en fait, par opportunité, prennent la fuite en vue de se remettre à l'abri pour refrapper, soit d'aller frapper ailleurs immédiatement. Donc là-dessus, il n'y a pas d'incohérence djihadiste, comme j'ai pu le lire sur le mode opératoire. Mais effectivement, la question aussi, c'est celle de ce contexte qui est, de ce point de vue-là, très intéressant. C'est de voir à quel point les acteurs djihadistes sont des acteurs politiques et même géopolitiques. Là, en l'occurrence, en allant frapper quelque part dans le dos la Russie, qui est obnubilée par le conflit en Ukraine et par la chasse aux opposants à Vladimir Poutine, là, il y a quelque chose qui se joue dans la signification de l'acte, qui est très puissant, puisque au moment où Poutine se donne l'image de l'homme fort capable de mener plusieurs conflits à la fois, là, tout d'un coup, on voit des failles béantes dans la gestion des services de sécurité russes.
Une salle de concert, est-ce que c'est un lieu privilégié? Est-ce que cela a une symbolique particulière ou c'est juste un effet d'opportunisme?
Non, une salle de concert, ça fait partie de ces items qui reviennent de façon récurrente dans la propagande de Daesh quand ils parlent de cibles, déjà parce que ce sont des lieux de promiscuité, donc en termes, on va dire, d'impact, c'est toujours considérable, mais c'est aussi dans la logique de Daesh et dans la justification qu'ils apportent, ce sont des endroits de débauche. C'est comme ça que c'est présenté. Ce sont des endroits qu'ils considèrent comme des temples de l'impiété. On sait que Daesh a une justification, une vision extrêmement religieuse du monde. Et donc, ils considèrent que ce sont des temples de l'idolâtrie qui, par définition, selon la logique salafo-djihadiste, est la mère de tous les péchés sur Terre. C'est l'idée qu'on puisse avoir des idoles autres que Dieu est considérée comme la pire des choses.
Mais le fait que les infidèles se vôtre dans l'idolâtrie, est-ce que c'est quelque chose qui soucie Daesh?
Oui, enfin, en tout cas, c'est ce qui leur permet, encore une fois, de justifier un certain nombre d'atrocités. La logique de Daesh, c'est une logique purificatrice. Donc, c'est une logique qui...
Les non-musulmans.
Oui, c'est-à-dire qui consiste à deux choses. D'ailleurs, ça fait partie de leur justification des attaques. La première, c'est de dire que ce sont eux qui sont attaqués. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant de lire le communiqué de revendication aussi de Daesh immédiatement après. Parce que, justement, il semblait y avoir un certain nombre de faits. Donc, ils ont dit voilà, qu'ils revendiquaient cet attentat et qu'ils reconnaissaient les auteurs comme étant des membres de l'État islamique. En revanche, C'était plus surprenant. D'habitude, ils apportent un certain nombre de justifications en expliquant, bon, c'est toujours plus ou moins tiré par les cheveux, mais que c'est en raison d'actions du pays visé quelque part. Et ça, dans le premier communiqué, ça n'apparaissait pas. Et donc, c'est intéressant parce que historiquement, la Russie a été largement visée. On l'oublie beaucoup par le djihadisme et pour des raisons qui remontent bien au-delà simplement de la guerre en Syrie. Il faut remonter à la guerre d'Afghanistan des années 80 et à la guerre de Tchétchénie de la fin des années 90, début des années 2000, pour comprendre tout ça.
Que dire de l'efficacité du plan Vigipirate ? Le Premier ministre a dit que 2 attentats avaient été écartés depuis le début de l'année en France. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet, Hugo Micheron ?
Sur l'efficacité en tant que telle, c'est important parce que ça met tout simplement des troupes dans la rue. Et on sait qu'un des éléments qu'on remarque assez peu, mais c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des attentats ces dernières années, un élément qui a été assez peu remarqué, c'est la rapidité de la réponse policière. On le voit bien là, typiquement à Moscou, il a fallu entre 30 et 1 heure avant que les forces spéciales arrivent sur zone. En France, des attentats sont, quand ils sont commis, généralement la police met 2 à 3 minutes pour intervenir. Donc ça montre bien qu'il y a un certain nombre de troupes présentes, je veux dire, dans la ville et qu'il y a des dispositifs de sécurisation qui sont importants. Maintenant, mon sentiment, c'est que ça permet effectivement, en prévision des Jeux Olympiques, en prévision aussi d'une situation sécuritaire qui est tendue, d'avoir immédiatement des moyens de réponse sur place. Mais la logique djihadiste, ce n'est pas que la logique des attentats ou de la prévention des attentats. Et ça, c'est encore l'élément sur lequel on a le plus de mal à intervenir. C'est comment est-ce qu'on arrive à aborder le djihadisme comme une forme de militantisme extrêmement active. Et ça, on peut le voir, on peut faire le parallèle avec les relations internationales. Ce qui est très frappant depuis une vingtaine d'années, c'est notre difficulté à penser le rôle des acteurs non étatiques. Et les djihadistes sont par définition des acteurs non étatiques. Mais si vous reprenez ne serait-ce que les 5 dernières années, l'impact des groupes non étatiques sur la géopolitique internationale a été colossal. Donc là, on le voit bien à travers Moscou, qui s'invite, cet attentat qui s'invite dans la capacité, donc dans la politique russe en Ukraine. Mais le Hamas, acteur non étatique, avec le 7 octobre, qui est une déflagration géopolitique internationale, les outils en ce moment, Wagner, qui est aussi un acteur non étatique avec beaucoup d'influence. Donc on voit bien, là, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte, bien au-delà simplement de la question terroriste.
Hugo Micheron, vous êtes professeur en sciences politiques. On vous doit La colère et l'oubli aux éditions Gallimard. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous nous expliquerez, notamment en compagnie de la journaliste Elsa Vidal, les conséquences sur le terrain russe et sur la géopolitique mondiale de ce qui s'est déroulé à Moscou vendredi dernier. 7h56 sur France Culture.
6h30, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Où l'on évoque le djihadisme qui a frappé Moscou. Celui-ci pourrait également frapper la France. En tout cas, celle-ci a rehaussé son niveau d'alerte puisque le plan Vigipirate est aujourd'hui au niveau maximal. On en parle avec Hugo Micheron, professeur en sciences politiques, spécialiste du djihadisme. Et nous sommes en duplex avec Elsa Vidal. Bonjour Elsa Vidal.
Bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes journaliste, rédactrice en chef du service en langue russe de RFI. On vous doit notamment la fascination russe politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie aux éditions Robert Laffont. Avant d'évoquer les répercussions en Russie cette fois-ci de cet attentat, Hugo Micheron, l'autre information du jour, c'est l'ONU qui a exigé un cessez-le-feu immédiat à Gaza, avec cette fois-ci les États-Unis qui n'ont pas mis leur veto. Un commentaire de votre part ?
C'est que les États-Unis veulent se faire entendre d'Israël. Le président Biden a été assez clair sur ce qu'il attendait d'Israël, notamment qu'ils ne poursuivent pas jusqu'à Rafah. Et de ce point de vue-là, ils musclent un peu leur jeu, c'est-à-dire qu'ils commencent à montrer que, en l'absence de réaction côté israélien, ils seraient capables de retirer la couverture, notamment à l'ONU. Pour Israël, et donc de ce point de vue-là, ça fait partie d'une gradation, on va dire, dans la dégradation de la relation entre Biden et Israël.
Daesh et la situation en Palestine, là aussi les jeux sont complexes.
Oui, complexes parce que Daesh avait de très mauvaises relations historiquement avec le Hamas. Ils avaient condamné à plusieurs reprises lors de la dernière décennie le Hamas comme un groupe trop pro-iranien et donc apostat. Mais en même temps, le 7 octobre est un événement d'une déflagration telle que Daesh a été obligé de se positionner dessus. Et ils n'ont pas aimé ça, ils ont attendu 15 jours avant de réagir au 7 octobre, ce qui est très très long, puisqu'on voit bien que les communiqués de Daesh généralement durent, enfin, sont envoyés au bout de quelques minutes ou quelques heures maximum. Et dans ce communiqué, Daesh ne mentionne pas une seule fois le Hamas. En revanche, ils se saisissent du bruit de fond et de la colère colossale qui s'exprime sur les réseaux sociaux pour justifier, a priori, préventivement, si vous voulez, des exactions dans le monde. Et on voit bien comment ils vont chercher à se saisir de cette situation pour justifier leur mode de fonctionnement. Il faut bien rappeler, à mon sens, que depuis le 7 octobre, on vit la première guerre mondiale informationnelle. C'est-à-dire que les événements sont immédiatement pris par les différents jeux partisans, réinterprétés, on l'a vu, suite immédiatement à l'attentat de Moscou. Des communautés complotistes de toute nature, des groupes pro-russes, des groupes pro-ukrainiens, qui tout de suite se jetaient sur l'événement alors qu'il était encore en cours, pour essayer de donner une interprétation, donner les coupables, etc. Et ça, c'est un phénomène de plus en plus fort.
Oui, dans la complosphère, on lit même que Daesh, c'est Israël, en fait.
Oui, mais ça, c'est pas si surprenant. On se souvient que le 11 septembre, c'est le point de départ du complotisme international. Daesh, quand il est apparu en Syrie en 2014, beaucoup disaient, que, y compris au Moyen-Orient, que Daesh était une invention de la CIA. Et désormais, on voit bien que même que le président Poutine joue aussi sur cette fibre en expliquant que les Ukrainiens pourraient être derrière l'attaque de vendredi dernier, ce qui paraît quand même difficilement crédible.
Justement, qu'est-ce que vous en pensez, Elsa Vidal, vous qui êtes rédactrice en chef du service en langue russe de RFI? Donc Vladimir Poutine, à la fois, continue à viser l'Ukraine en estimant que c'est l'Ukraine qui est le véritable commanditaire de cet attentat, même s'il a admis, et c'est un revirement, qu'il y avait là, effectivement, un groupe djihadiste qui avait été l'opérateur de l'attentat.
Alors, il faut en penser, je pense, que le président Vladimir Poutine est un acteur politique de haut vol et expérimenté, et qu'il a compris, au vu des réactions internationales, à quel point il pouvait faire fond sur le capital de sympathie qui a uni très longtemps nombre de grandes puissances avec la Russie sur le fond de la lutte contre l'islamisme radical. Et ça, ça ne l'empêche pas pour autant de développer sa théorie de manière à ce qu'elle soit très large et à viser non seulement l'Ukraine, comme vous l'avez bien souligné, mais aussi les États-Unis et l'Occident, malgré tout, le mauvais Occident, dans les sponsors de cette attaque, qui seraient selon lui liés à ceux qui, depuis 2014, ont pris pour cible la Russie, c'est-à-dire les alliés de Kiev et Kiev.
Oui, il faut dire que c'est assez embêtant pour Vladimir Poutine que Daesh soit derrière cet attentat.
Bah, oui, c'est tout à fait embêtant, mais c'est surtout embêtant de constater qu'il y a eu tant de temps mis par les forces de police et de sécurité russes pour réagir, des forces de sécurité présentes au Crocus Hall qui ont fui le site de l'attentat, que les autorités étaient passées à côté des mises en garde des services de sécurité américains du 7 mars. C'est vrai qu'ils étaient d'abord à destination peut-être de leurs propres ressortissants, mais qui n'ont pas pu être prises à leur juste manière. Mais je pense aussi que cela nous renseigne sur la manière dont nos univers mentaux et notre culture politique, à nous, aux Russes, aux Américains, sont tout à fait compartimentés, et à quel point dans la vie internationale, nous sommes dépendants de cette capacité aussi à comprendre l'autre, parler dans des termes qui puissent être entendus, et à quel point tous ces imaginaires politiques façonnent notre perception du monde. Et c'est aussi ce que fait Vladimir Poutine. Il est dépendant de son propre filtre qui lui permet de saisir le réel, et il donne à ses administrés, à ses sujets, pourrait presque dire aujourd'hui, une explication qui permet de ratisser le plus large possible et d'associer toutes les figures de l'ennemi, le terroriste islamiste qui remonte bien sûr à la menace tchétchène, les Américains qui sont l'ennemi ultime et compétiteur ultime essentiellement, et puis les Ukrainiens qui se sont détournés de la Grande Russie et qui sont devenus des nazis. Voilà.
Goumicheron.
Oui, je crois qu'il faut effectivement lire une partie des déclarations de Poutine en miroir de l'Europe. En fait, c'est-à-dire Vladimir Poutine va se positionner sur ce sujet comme il le fait à mon sens depuis 20 ans, c'est-à-dire en essayant d'incarner un contre-modèle. Et jusque-là, une bonne partie de la propagande du régime russe sur les questions d'islamisme a été extrêmement développé. C'était pas un petit élément. Il faut rappeler que quand Poutine commence à affirmer son pouvoir sur la Russie au début des années 2000, il le fait en utilisant la lutte contre le djihadisme tchétchène. C'est ça qui va être l'élément qui va permettre à Poutine d'affirmer une image d'un leader fort sur le pays, etc. Et vous vous souvenez des mots très très durs qu'il avait tenus contre les djihadistes tchétchènes, et indiquant qu'il allait les traquer jusque dans les chiottes. Pardonnez-moi l'expression. Cette manière très virulente de réagir à la menace djihadiste, ça a été une composante de la Russie sur les 20 dernières années, et c'était une forme de propagande qui avait pénétré les espaces publics européens, les débats publics européens. On se souvient, par exemple, il y a 10 ans, au moment du pic de Daesh en Syrie, en Irak, entre 2014 et 2016, qu'il y avait un certain nombre d'hommes et de femmes politiques dans le débat public européen, français et ailleurs, qui expliquaient que, finalement, la Russie, c'était le rempart contre l'islamisme, qu'ils avaient trouvé la solution à travers une attitude extrêmement virulente, etc. Et là, on voit bien que c'est en partie ça qui vole en éclats depuis vendredi, puisque non seulement il y a eu cet attentat à Moscou, mais que cet attentat est projeté. C'est-à-dire qu'il a nécessité, a priori, une organisation logistique et opérationnelle importante, et ça, on ne l'avait pas vu depuis longtemps.
Elsa Vidal, est-ce qu'on est aujourd'hui certain que les personnes accusées publiquement donc d'être les auteurs de cet attentat sont bien les terroristes qui ont œuvré dans le Crocus City Hall de Moscou?
Non, on n'en est pas certain, et ça fait partie des questions très importantes auxquelles pour l'instant il n'y a pas de réponse du parti des autorités en Russie, et notamment savoir comment ces personnes ont pu s'organiser, comment elles ont eu des armes, pourquoi elles ont pu quitter le Crocus City Hall et s'éloigner autant de Moscou en direction du Bélarus ou de l'Ukraine selon les versions disponibles. Cet en fait accent mis sur leurs identités, leur nationalité, les images extrêmement brutales qui ont été diffusées créent un rideau de fumée en fait qui permettent de tenir à distance toutes les questions essentielles et notamment les questions qui portent sur l'échec de la sécurité qui n'a pas été garantie aux personnes présentes au Crocus City Hall. Je rappelle que le contrat social en Russie est quand même un peu le même qu'ailleurs, c'est-à-dire contre votre assentiment, nous vous garantissons la sécurité, c'est le contrat optien de base. Et là, il est clair qu'il n'a pas été rempli. On rajoute à ça la longue, longue période de silence avant la prise de parole de Vladimir Poutine, plus de 19 heures. Cela laisse à entendre qu'il y a encore énormément d'éléments inconnus ou d'éléments cachés. Et il ne faut absolument pas, mais ça les Russes le savent, prendre pour argent comptant les versions soumises en première instance au public.
Mais alors, est-ce que vous comprenez, Elsa Vidal, pourquoi ces terroristes suspectés donc, se seraient enfuis via la Biélorussie ou via l'Ukraine ?
Alors, via la Biélorussie, c'est assez facile à comprendre au sens où il n'y a pas de contrôle frontalier. Vous passez une frontière qui n'est pas matérialisée physiquement. Il n'y a pas de guérite, il n'y a pas de poste de contrôle. On procède à des contrôles un peu arbitraires. On fait des carottes de temps en temps. Et c'est ce qui pourrait expliquer une éventuelle fuite vers le Bélarus. Mais surtout, je pense que... Encore une fois, on cherche à réactiver la figure maintenant, on assume de réactiver la figure du terroriste islamiste, c'est-à-dire le Tchétchène, le Syrien, Les centres asiatiques qui sont peut-être de mauvais sujets maintenant et qui, je le rappelle, sont aussi envoyés combattre sur le front contre l'attribution de la nationalité russe. Donc cela construit à nouveau des facettes de l'histoire qui sont compatibles avec le récit formé par Vladimir Poutine, et surtout cela nous renvoie à l'âge d'or de la coopération internationale où les États-Unis, la France, l'Europe, la Chine étaient alignés et alignés dans la lutte antiterroriste. Et ça, c'est un atout politique et diplomatique de maître que Vladimir Poutine va essayer de réutiliser au moment où, justement, le capital diplomatique de la France lui a été soustrait. Et d'ailleurs, ça se voit en France dans les discours du camp de ceux qui pensent qu'il faut mieux comprendre Moscou, qui immédiatement ont commencé à reprendre l'ancienne, qui voudraient que la Russie et la France soient des alliés naturels, que nous avons besoin, face à une menace terroriste plus importante que celle que fait peser sur nous la guerre en Ukraine, d'être alliés, et qu'il faut d'abord et avant tout développer notre alliance avec Moscou.
Qu'est-ce que vous en pensez, Hugo Micheron ?
C'est ce qui est intéressant de voir, c'est que l'ambassade américaine avait quelques semaines et à vrai dire quelques jours avant l'attentat de vendredi dernier prévenu ses ressortissants d'éviter les concerts et les événements de ce type. Et ça, c'est un élément intéressant puisque ça sous-entend que peut-être sans la guerre en Ukraine, c'est-à-dire sans une opposition frontale avec l'Occident, peut-être que les services russes auraient bénéficié d'une aide américaine. Et ça, ça va être difficile là aussi pour les Russes et pour le régime de Poutine d'expliquer que ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine, mais à front renversé, c'est-à-dire que ça c'est imputable à Poutine. L'autre élément qui me semble important derrière tout ça, c'est de voir que le régime russe essaye de mettre depuis plusieurs années totalement sous le boisseau la réalité de la menace djihadiste en Russie. Et celle-ci est importante. On l'a oublié parce que l'Europe de l'Ouest est très focalisée sur la question des djihadistes originaires d'Europe de l'Est, de l'Ouest, pardon. Mais en Syrie, les groupes russophones étaient extrêmement importants. Et pas simplement importants. Ils étaient parmi aussi ceux qui occupaient les grades les plus élevés. Par exemple,
pourquoi
tout simplement parce que ce sont des groupes qui ont une longue expérience de la guerre et de l'affrontement très brutal, notamment contre la Russie.
Une préparation militaire.
Une préparation militaire. Et donc, par exemple, l'équivalent du ministre de la Défense de Daesh s'appelait Omar el-Chichani, le Tchétchène. Et beaucoup de djihadistes français européens ont été formés par ces Tchétchènes ou ces Ingouches.
Elsa Vidal.
Oui, effectivement, c'est une vision et une des facettes de la Russie qu'il faut absolument faire oublier aux Russes. Et il faut également leur faire oublier le fait que la Russie s'est impliquée dans une lutte, finalement, contre les populations tchétchènes, contre d'autres populations musulmanes en Syrie, mais aussi en Afghanistan, et que la violence exercée par l'État russe n'est pas vécue comme juste, libre et portant une émancipation, mais qu'elle a créé au contraire, un réservoir de violence, que ce soit après 15 ans de guerre en Tchétchénie, une implication aux côtés du régime de Bachar el-Assad, une guerre de 10 ans en Afghanistan, et cela, ce n'est pas la manière dont les Russes veulent se percevoir. Et puis cela fait oublier également qu'il, contrairement au credo souvent revendiqué par les dictateurs d'une plus grande efficacité du contrôle social et de la sécurité, qu'en réalité, en Russie, on va et vient de manière assez libre, qu'il y a une grande question sociale qui n'est pas entendue dans les républiques musulmanes de Russie, notamment au Daghestan, qui a fourni lui aussi un grand contingent de combattants djihadistes. Et c'est essentiellement l'incapacité des élites locales à régler la question sociale qui est à l'origine de ce contingent et de son développement. Que la présence de Daesh en Russie est avérée depuis plusieurs années, de Daesh ou d'autres groupes islamistes comme Al-Qaïda. Il s'agit de donner aux citoyens russes une image beaucoup plus rassurante de leur pays.
Mais alors, c'est quand même un peu, non pas contradictoire, mais peut-être paradoxal, parce que d'un côté, Elsa Vidal, vous nous expliquez qu'il faut faire oublier la présence donc de ce djihadisme à l'intérieur même de la Fédération de Russie. De l'autre, il y a apparemment une chasse aux Tadjiks qui est en cours à Moscou, et cela, les Russes, j'imagine, ne l'ignorent pas.
Oui, ça c'est vrai, les Russes ne l'ignorent pas. Il est vrai qu'il y a une dimension paradoxale dans le discours des autorités. Mais encore une fois, la chasse aux Tadjiks, c'est quelque chose qui est très présent dans l'univers aussi de la culture urbaine et banale, du racisme ordinaire. Il faut bien comprendre, on l'oublie souvent, que la Russie, très longtemps, a été le deuxième pays de migration au monde après les États-Unis, que les Tadjiks font partie avec les autres peuples d'Asie centrale anciennement soviétiques, les Kirghizes, les Ouzbeks, parfois les Kazakhs, mais un peu moins, de la main-d'œuvre ouvrière qui vient en Russie, qui travaille dans des conditions de migrants du travail, et souvent très vulnérables du point de vue du droit et du point de vue économique, et que ce sont d'ailleurs toujours dans ces conditions-là que les futurs terroristes, quand ils existent, parce qu'il y a eu des cas réels, ont été recrutés. C'est en migration, loin de leur réseau traditionnel et de leur famille, exposés à des vulnérabilités qui les rendent extrêmement malléables aux pressions en termes de papiers pour résider en Russie, notamment, et puis des sommes d'argent qui sont quand même très limitées. On le voit si les aveux extorqués sous la torture sont véridiques dans le cas qui nous occupe. 500 000 roubles pour la totalité du groupe, ça fait vraiment de tout petites sommes qui expliquent, ce qui explique aussi pourquoi on a recours à ce genre de contractants ou d'exécutants. C'est parce que la misère qui règne dans des pays comme le Tadjikistan rend ces hommes extrêmement faciles à convaincre de sacrifier leur vie et la sécurité des autres pour des sommes qui permettront de faire vivre leur famille, alors que depuis la pandémie en Russie, les conditions de travail pour ces populations migrantes se sont dégradées, ce qui dégrade par ricochet la situation de familles entières dans les pays d'Asie centrale qui dépendent des envois d'argent des troupes migrantes.
Et oui, parce que Hugo Micheron, là aussi, ça a été invoqué, le fait qu'il y ait eu l'un de ces terroristes présumés qui était payé pour commettre cet attentat. Cela a été invoqué comme étant la preuve que ça ne pouvait pas être le cas. Or, les choses semblent plus compliquées.
Oui, c'est ça. On entend, ça fait partie aussi des anciennes assez récurrentes. Souvent, ce genre d'éléments, la réalité, c'est que les groupes djihadistes ont des manières de rétribuer de toute façon les futurs martyrs ou leurs familles. Ça, c'est pas nouveau. Sur la dimension tadjik, c'est très intéressant parce qu'en matière de djihadisme, ça fait partie de ces groupes passerelles. C'est-à-dire qu'en fait, on a repéré des tadjiks et des ouzbeks qui étaient très investis dans la deuxième guerre de Tchétchénie au début des années 2000. Ces groupes-là vont ensuite basculer à la fin de la décennie 2000 vers l'Afghanistan. Et c'est le début de ce que va devenir ensuite Daesh au Khorasan 10 ans plus tard. Mais en Afghanistan, autour des années 2010, ces groupes vont accueillir aussi bien des groupes djihadistes russophones que des groupes djihadistes turcophones. Et à travers turcophones, évidemment des Turcs, mais aussi des Allemands d'origine turque, puis des Allemands. Et donc, en fait, on a un lien qui est très intéressant autour des réseaux tadjiks et ouzbeks, qui à la fois sont des groupes russophones qui vont plutôt être avoir pour focale la Russie, et d'autres turcophones qui vont plutôt avoir pour focale la Turquie et l'Europe de l'Ouest via l'Allemagne. Et ça, c'est intéressant de le prendre en compte, puisque là, on voit qu'il y a un de ces nœuds qui s'organise, et on sait que les réseaux djihadistes fonctionnent beaucoup par langue, et les réseaux tadjiks et ouzbeks, et de manière générale d'Asie centrale, sont à cheval entre ces réseaux turcophones et russophones. Donc derrière le cas russe, encore une fois, il faut réfléchir au cas ouest européen via ces réseaux turcs et allemands. Et de ce point de vue-là, c'est un peu différent de ce qu'on a connu sur la dernière décennie. Et donc on a, si vous voulez, trois pôles en ce moment du djihadisme mondial qu'il faut surveiller. Il y a cette Asie centrale, voilà, avec l'Afghanistan au cœur, qui est très active en ce moment, on le voit. Il y a la Syrie et l'Irak, et qu'il faut surveiller notamment sous fond de guerre à Gaza. Et puis il y a la zone sahélienne aussi, qui différemment, mais là aussi, est très active. Et donc ça nous invite plutôt, encore une fois, à lire les événements de Moscou dans un contexte global où les acteurs djihadistes sont influents.
Elsa Vidal, un mot de conclusion. Qu'est-ce que l'on peut imaginer? L'enquête est en cours à Moscou, mais rien ne dit que nous n'aurons pas à subir là aussi les éléments de propagande du régime. Difficile de savoir distinguer la vérité de ce que l'on veut bien nous expliquer là-bas.
Alors, moi je dirais que malgré tout, il nous a fallu peut-être 10 ans avant de connaître qui était derrière les attentats de Moscou qui avaient justifié, et du sud de la Russie qui avaient justifié la deuxième guerre de Tchétchénie, pour la bonne et simple raison que beaucoup de choses et beaucoup d'informations s'achètent en Russie. Il faudra laisser un peu de temps, mais nous finirons par savoir. Cela risque néanmoins de se compter en années.
Et puis, qui surtout, était derrière les attentats de Moscou?
Selon toutes les probabilités, les services de sécurité russes. Afin d'avoir une bonne raison de relancer la violence militaire sur la Tchétchénie à l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine.
Là aussi, cela rajoute encore de la confusion à la situation actuelle, bien sûr.
Absolument. Bien sûr, cela rajoute beaucoup de confusion. Je pense que la confusion, c'est exactement ce qui est recherché. La désorientation, la confusion, de manière à stopper la rationalisation, la tentative de comprendre, notamment par les citoyens, qui sont aussi parfois à la recherche d'une explication simple et qui se tourneront vers leur président, ou s'ils sont déjà très polarisés et contre le régime, qui préféreront chercher l'information vers des médias indépendants.
C'est le signe, en tout cas, Hugo Micheron, que la menace est toujours là.
Oui, et qu'elle est politique, puisque si Poutine va instrumentaliser ou va essayer d'instrumentaliser cet événement de façon politique, c'est aussi que ces événements, au-delà d'être des attentats, sont aussi des événements politiques. Et c'est ça qu'il va falloir suivre, je pense, dans les prochains jours. C'est la façon dont le Kremlin va essayer d'instrumentaliser aussi cette situation dramatique.
Et pour le côté occidental, européen, français, des choses?
La question évidemment que tout le monde a en tête, c'est les Jeux Olympiques. Et de ce point de vue-là, bon, les moyens considérables investis sur le plan sécuritaire devraient au moins permettre de, enfin, montrent qu'on a pris la mesure de l'enjeu. Mais par contre, c'est vrai que la question djihadiste, entre les sortants de prison et de manière générale le contexte très tendu autour de Gaza, elle est sur le premier plan de l'actualité.
Merci Hugo Micheron. La colère et l'oubli, c'est votre livre publié aux éditions Gallimard. Merci Elsa Vidal. La fascination russe, politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie, c'est l'ouvrage que vous avez publié aux éditions Robert Laffont.